Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ce sont des récits qui se divisent en deux groupes. Ils sont presque devenus un genre journalistique. Les premiers se situent plutôt vers Calais, dans la jungle et alentour. Il y a 15 ans, il y a eu Mireille, mamie, qui a fait le tour des rédactions avec son accent du Nord et sa maison ouverte aux migrants. Puis il y a eu les histoires de Jean-Claude et des autres bénévoles du Calaisie. Récemment, ce sont surtout des histoires d'amour qu'on a entendues. Elles mettent généralement en scène des migrants afghans ou iraniens. Une des plus fameuses est l'histoire de cette ancienne militante du Front National, tombée amoureuse d'un demandeur d'asile iranien et qui fut mise en examen pour l'avoir aidée à traverser la Manche. Une autre, par amour, s'est quasiment transformée en passeuse et s'est toujours demandé si elle avait été aimée ou utilisée, sans se dire que c'était peut-être les deux. À Calais, il y a eu aussi l'histoire fameuse de Rob Laurie, un Anglais bénévole, qui a caché une petite Afghane de 4 ans pour l'aider à rejoindre sa famille en Grande-Bretagne et qui fut arrêté par les douaniers. Un deuxième grand groupe de résistants, de héros ordinaires ou de criminels, selon les points de vue, suit un autre chemin de l'immigration, via l'Italie et le sud de la France, Nice, Menton et la désormais célèbre vallée de la Roya. Ici, les personnes venues demander protection à la France, que d'autres appellent des étrangers en situation irrégulière, viennent souvent d'Afrique, d'Érythrée, d'Éthiopie, du Tchad. Francesca Perotti, une interprète italienne de 29 ans, a comparu en avril dernier à Nice pour avoir transporté à Menton, à bord de sa camionnette, une famille d'Érythrée, c'est-à-dire un couple et un bébé de 6 mois, trois autres jeunes filles érythréennes et éthiopiennes, et deux mineurs venus du Tchad et d'Éthiopie. En novembre 2016, il y a eu aussi le procès d'un professeur à l'université de Nice qui avait transporté trois érythréennes blessées d'un camp illégal de migrants dans la vallée de la Roya à la gare de Nice pour qu'elles aillent se faire soigner à Marseille. Demain, dans Les Pieds sur Terre, on entendra le fameux Cédric Héroux qui a même eu les honneurs du New York Times. Les deux groupes, bien sûr, ne sont pas étanches et les récits continuent à s'égrener. On en écoute deux autres, aujourd'hui, du nord au sud, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, en prélude à la journée spéciale que France Culture consacre demain, au retour des radicalités, avec un point d'interrogation et deux récits d'Émilie Chaudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Pour 60 km là.
On va aller d'abord à l'auberge des migrants, déposer ce que j'ai dans la voiture. Après je vais aller voir s'il n'y a pas de blessés au niveau des réfugiés sur où est-ce qu'ils sont installés actuellement. J'y vais 3-4 fois par semaine. Et au moment de la jungle, en fait, j'y passais environ, j'ai passé quasiment mes journées, mes nuits là-bas, quoi. J'étais quasiment tout le temps là-bas.
Ça c'est la camionnette de votre travail?
Ouais, c'est la camionnette de mon boulot. Ouais. Mon agence, elle est sur Calais, en fait. Comme c'est sur la route, je charge dans la camionnette, je dépose et après je vais sur mon boulot, quoi. Mon patron, il est au courant de ce que j'ai fait, de ce qui s'est passé. Il sait que j'ai de les réfugiés et il me soutient totalement, quoi. Il me dit qu'il va falloir que je me calme. Parce qu'il dit que je vais un peu trop loin, quoi. J'étais un peu trop loin cette fois-ci. Je m'appelle Laurent Caffier, j'ai 42 ans. Je suis responsable de secteur dans le nettoyage industriel. Je gère les équipes et puis la relation client. Et puis on nettoie les usines, quoi.
Donc là, on est tout près de l'ancienne jungle.
Là, ouais, l'ancienne jungle est juste derrière la route. Là. C'est de ce côté de la route aussi qu'il y a les mineurs actuellement, quoi, qui dorment dans un terrain privé ou qui a des monts de gravier, quoi. C'est là où tout a commencé avec les Iraniens, quoi. Ce groupe-là, quand ils sont arrivés, moi je les ai connus, donc j'ai commencé à les aider dès le départ, quoi.
Comment vous les avez connus?
Sur la jungle. Tout simplement, on passe et puis c'est pas nous qu'on choisit qui on va aider. En fait, c'est qu'ils viennent naturellement vers nous, quoi. On traversait la jungle et puis ils venaient nous parler et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, bah, y a un lien qui se fait, quoi. Davod, surtout, parce que je le considère comme un petit frère, parce qu'il a perdu sa mère quand il était chez moi. Et comme il m'appelle aussi frère, puis j'ai beaucoup d'Iraniens qui... En fait, frère en iranien, ça se dit Baradar, donc ils m'appellent tous comme ça, quoi. Donc il y a un lien qui s'est fait comme ça. Quand la préfecture a envoyé la police commencer à détruire la partie sud de la jungle, les Iraniens, en protestation contre ça, quoi, comme il n'y a personne qui voulait les écouter, ils ont fait une action un peu choc, quoi. C'est qu'en fait, ils se sont cousus la bouche. Ils se sont cousus la bouche devant moi, quoi. Il n'y a pas eu un signe de douleur ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment fait ça avec un but déterminé, quoi. Ça se voyait que, avec tout ce qu'ils avaient passé, il n'y avait même pas la douleur de se coudre la bouche, quoi. C'était plutôt impressionnant. Ouais. Ils ont pris des panneaux en marquant dessus qu'ils sont juste des humains et ils veulent juste être respectés en tant qu'humains. Après leur action qui se sont cousus la bouche et que les promesses de la préfète n'ont pas été tenues, il y a un groupe de pasteurs espagnols qui leur a promis de les faire partir de l'Espagne jusqu'à l'Angleterre en disant que c'était plus facile. Ils les ont mis dans un squat à Bilbao. Ils leur ont demandé de faire rentrer de l'argent pour pouvoir payer pour passer, quoi, en fait. Et c'était totalement faux. Puis ils se sont fait maltraiter pendant un mois, quoi. En fait, Davod a réussi à défoncer la porte où est-ce qu'ils étaient enfermés. Ils se sont sauvés. Et dès qu'il a pu charger son téléphone, quoi, il a trouvé une zone qui avait une borne Wi-Fi. Il m'a contacté sur WhatsApp et puis il m'a demandé de l'aide, quoi. Puis ben, j'ai mis une semaine pour le faire revenir. J'ai fait une chaîne sur Facebook, en fait. Et comme j'ai des contacts un peu dans toute la France, parce qu'on est tous en lien, et ben en fait, pour les hébergements, ben, y a des moments où j'ai dû payer des hôtels, et puis ben, les billets de train à distance, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Puis je les ai récupérés à la gare de Boulogne, et je les ai ramenés à la maison. En fait, ils avaient vraiment peur, ils m'ont dit, écoute, on est à 35 km de notre but, il faut nous aider à partir. C'est de là qu'ils m'ont dit, on est venu en bateau, pour 35 km de mer qui nous reste. Il faudrait nous aider à trouver un bateau et à partir, et je les ai aidés. En fait, on a regardé sur le bon coin, puis on a regardé les bateaux qui tiendraient la route, la navigation jusqu'en Angleterre, et puis ben, en fait, on en a trouvé un à 1000 euros avec le moteur et tout ce qui s'ensuit. Et puis, un samedi matin, j'ai regardé sur une application qui donne le temps en mer. J'ai vu que la mer était calme, j'ai dit, ben, ils peuvent partir demain matin, quoi. Et ils sont partis et. Ils sont arrivés en Angleterre.
Et ils vont bien ? Vous avez des nouvelles ?
Ouais, j'ai des nouvelles régulièrement, ouais. Ben, quasiment presque tous les jours. Donc ouais, ça se passe impeccable. C'était un vendredi 19 août 2016. La PAF de Calais est venue me chercher à 7h du matin.
La PAF, c'est
la police aux frontières. Je savais pourquoi faire, ils étaient là. Donc j'ai dit, bah ouais, parce que j'ai des réfugiés. Ils m'ont dit, bah ouais, de toute façon, on va faire une perquisition de votre maison. Ils n'avaient même pas de mandat, quoi, à la base. Donc ils m'ont demandé s'ils pouvaient perquisitionner la maison. J'ai dit, ouais, aucun souci. Donc je les ai laissés fouiller. Mes gamins se sont réveillés. Donc. Ils m'ont pas mis les menottes devant eux et ils m'ont dit bon, on va à la PAF de Calais, quoi, vous nous suivez. Donc je suis monté dans la voiture et puis on est parti jusqu'au commissariat de Calais. Là, ça s'est un peu mal passé, quoi, parce qu'au départ on m'a dit qu'ils allaient me faire mon entrée en garde à vue. Et l'inspecteur qui m'interrogeait, quoi, m'a dit attends, je te laisse 15 minutes, j'ai quelque chose à faire. Il m'a mis dans un bureau. Et en fait j'étais insulté et menacé par un des policiers là-bas, quoi.
Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Ben, il m'a dit en fait que j'aurais dû me faire sodomiser par mes bougnoules. Et puis à un moment donné, il faisait tourner son arme sur le bureau qui était dans son étui. Puis il m'a dit, t'as vu, un accident s'est vite arrivé. Et en fait, on s'est un peu frité, quoi. Il m'a foutu dehors dans le couloir, quoi. Et notre inspecteur m'a récupéré, m'a remis dans son bureau. J'ai pas eu à manger et à boire pendant 30 heures. Je suis resté 30 heures. Après, j'étais déféré au parquet de Boulogne. Et c'est là qu'on m'a dit que j'étais sous contrôle judiciaire. Moi, je m'attendais à être incarcéré.
Qu'est-ce qu'on vous reprochait ?
Ben, on me reprochait l'aide à l'entrée et à la circulation de personnes en situation irrégulière sur le territoire français. À mon avis, je crois que j'ai dû être donné par quelqu'un, quoi. Moi, j'ai été vendu, quoi. Par des policiers qui devaient être infiltrés aussi, parce que quand j'étais arrêté, qu'on m'a emmené au commissariat là-bas à Calais, quoi, j'ai vu des policiers déguisés un peu comme des réfugiés, quoi, qui revenaient. Donc, il est rentré dans un bureau et le policier était habillé comme un réfugié, quoi. Il était sale et tout ce qui s'ensuit. Et il a commencé à prendre des affaires dans le tiroir. C'est là que j'ai vu que c'était un policier et que c'était pas un réfugié. Donc, à mon avis, ils sont aussi infiltrés sur les camps pour voir ce qui se passe. En fait, ils m'ont suivi pendant plusieurs mois, apparemment. Et ils se sont aperçus, ils m'ont même donné un surnom, le Zorro de la jungle. Et ils se sont aperçus qu'en fait, si j'étais totalement désintéressé niveau profit ou quoi que ce soit, et en fait, ce qui a bloqué le plus, quoi, c'est que je les ai aidés à partir. Et donc, on les voit, on les a devant nous, quoi. On peut pas les laisser sur le bord de la route. On les voit mourir à la faim, on les a de soif. Il y a des moments, moi j'ai la guerre qui est pas loin, ils passaient devant ma maison. Maintenant ils connaissent, quoi, certains, le message est passé. Donc ils s'arrêtent, ils demandent une bouteille d'eau ou un truc à manger, ils rentrent un petit moment, ils mangent et ils s'en vont ensuite, quoi. Je les redépose à la gare la plus proche pour qu'ils rejoignent Calais ou Dunkerque, quoi. J'ai été jugé le 27 juin 2017. Et là, en fait, je suis condamné, mais je suis dispensé de toute peine. Ça veut dire que j'ai pas de sursis, j'ai pas de prison, j'ai pas d'amende. Juste avant mon jugement, parce qu'en fait, j'ai jamais arrêté d'aider, quoi. J'ai voulu aller avec mon fils porter à manger au réfugié à Calais. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un policier qui m'a dit que j'avais rien à foutre là, que les gens de Calais avaient assez subi comme ça, que moi j'en avais rien à foutre puisque j'étais pas de Calais, j'habitais à côté, que ces gens-là ils étaient là pour foutre la merde et tout ce qui s'ensuit. Ce policier, je lui dis, et vous, quand vos enfants crèveront la dalle, si je leur donne à manger, j'aurais pas le droit non plus. Si c'est un SDF, j'ai le droit de lui donner à manger. Là c'est des enfants, je leur donne à manger. Et ça n'a pas pu. Et comme j'ai retendu une banane à un gamin, là il m'a plaqué contre la voiture, quoi. Mon gamin de 14 ans était avec moi. Il a eu peur. Et il s'est demandé ce qui s'est passé, quoi, parce qu'il m'a vraiment bien claqué contre la voiture. J'ai été marqué au niveau de l'épaule pendant plusieurs jours, quoi. Mais enfin, voilà, quoi. Mais ça m'a pas empêché de faire le tour et d'aller donner de l'autre côté à manger. Et je continue à le faire. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir froid, d'avoir faim. Parce que j'ai, en fait, quand j'étais jeune, j'étais placé dans un foyer. Parce que je m'entendais pas, j'avais un père violent, donc je m'entendais pas avec mon père. Avec mon père, ça commençait, j'avais l'âge de 10 ans, quoi. Donc j'ai une très bonne mère, une mère qui s'est beaucoup battue pour nous, elle travaillait beaucoup pour nous élever. Et en fait, on avait un père qui était violent, qui buvait, donc ça a été une situation difficile à gérer pour ma mère, qui était toute seule avec 4 enfants, quoi, en fait. Et à un moment donné, le juge ne m'a pas placé parce que ça venait trop violent entre moi et mon père. Et je me sauvais toujours du foyer, donc je faisais des fugues. En fait, j'ai dormi dehors, c'était galère pour se nourrir, c'était galère pour s'abriter ou quoi que ce soit. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir froid, d'avoir faim. Et donc, je sais ce que ressentent ces gens-là, quoi. Donc, on peut pas passer à côté d'eux, de rester indifférent, quoi.
Votre compagne, elle a un rôle là-dedans, elle vous aide, elle fait des choses particulières?
Ouais, puisqu'elle venait avec moi sur la jungle, mes enfants aussi. Ils jouaient avec les gamins réfugiés, ma compagne m'aidait pour apporter les dons, décharger, répondre aux besoins que les gens nous demandaient, parce qu'ils demandaient des vêtements, hein, des fois ils demandaient des choses particulières. Ma compagne avait plus cette facilité de parler avec les dames réfugiées, c'est plus simple, quoi. Là, elle m'aide aussi parce que j'ai un Soudanais à la maison. Elle m'aide à préparer les sacs quand on va porter à l'auberge des migrants. À préparer les repas quand on prépare des repas pour les gens là-bas qui sont toujours sur le terrain.
Et vos enfants, ils réagissent comment quand ils voient des gens débarquer chez vous?
Ils sont contents. Hein. C'est tellement une habitude que les gens, après, on s'attache à eux. Mes enfants s'attachent à eux, puis ça devient une petite famille, quoi. Il n'y a pas de différence, quoi. On les emmène au médecin ou toutes des choses comme ça, quoi.
Et ça vous coûte beaucoup d'argent?
Je peux pas vous dire exactement combien ça me coûte, quoi. Je sais pas, ça change tout le temps, j'utilise jamais la même somme. J'ai pas de budget défini par mois, quoi. Je sais qu'à un moment donné, financièrement, ça devient un peu dur, donc j'arriverai plus à suivre autant que je faisais avant, quoi. parce que j'ai eu trop de frais avec ce qui s'est passé là.
C'est-à-dire ?
Bah, payer mes avocats, j'ai dû payer les avocats, là je vais certainement devoir payer mes frais de justice, ça, c'était un peu plus dur quoi. Puis j'ai mon gamin qui vient de rentrer dans une école qu'on est obligé de payer, puis je continue d'aider, donc il y a beaucoup de frais. Et donc là, c'est vrai que le budget de la famille en a pris un coup. On vit environ avec 2300 euros par mois, quoi, à 4. Donc on essaye plutôt de donner à manger à ceux qui en ont besoin. L'extrême droite tourne dans le coin, donc il faut faire attention. Des fois ils sont 5-6, quoi. Il y a deux voitures qui tournent. Et la dernière fois j'étais avec mon gamin, mais ça va, j'avais beaucoup de réfugiés autour de moi, on s'est juste fait insulter. Sale pute, collabo, on a le droit à tous les noms d'oiseaux, quoi. Faut vraiment faire attention dans le secteur, quoi. J'ai été poursuivi à plusieurs reprises sur l'autoroute par des personnes d'extrême droite parce que, ben, en fait, je repartais de la jungle et puis ils m'ont poursuivi. J'ai reçu des menaces sur mon Facebook, enfin sur mon Messenger. Ben, ils sont venus jusque devant chez moi, ils se sont amusés à prendre des photos de ma maison, me dire ouais, on sait où est-ce que tes enfants vont à l'école, soit que t'arrêtes, on fera un exemple avec toi. Mes enfants et ma compagne, ils en ont peur quand même. C'est pour ça que quand moi je m'en vais, ils ferment la maison à clé, ils font attention, ils baissent un volet ou quoi que ce soit, quoi. Je pense pas qu'ils passeront à l'acte ou quoi, c'est surtout pour faire peur. C'est essayer de dissuader les gens d'aller aider les réfugiés, quoi.
Vous avez peur, vous ?
Non, franchement. Non, ceux qui feront rien, c'est surtout des grandes bouches. Là, ils m'embêtent plus, là, actuellement. Ça fait un petit mois qu'ils m'embêtent plus, quoi. Donc, je pense que le jugement a fait qu'ils se sont dit, ouais, il est peut-être continue d'être suivi, on va peut-être éviter de trop aller, quoi, parce que c'est eux qui vont se faire attraper après par la police, à mon avis. Je préfère les ignorer. Tant qu'il y aura des gens qui crèveront la dalle et de froid ici à Calais, ben, je serai là. Il n'y a rien qui peut me dissuader. J'arrêterai pas.
Je suis retraitée de l'enseignement supérieur et je suis bénévole à l'association Habitat et Citoyenneté. Je vis à Nice, j'ai 74 ans. Le 13 juillet 2015, c'était un jour d'observation de contrôle aux faciès. Toute de la Ligue des droits de l'homme, Habitat, la CIMAD, Secours catholique, tout le monde, c'était une journée d'observation complète. Ce fameux 13 juillet 2015, n'importe quel citoyen pouvait aller à la gare de Nice et faire un rapport CERFA. C'était transmis sans doute à des instances politiques. Donc moi j'arrive pour 10 heures et je rencontre une collègue de l'association. On s'assied sur un banc pour voir un peu comment ça se passait, juste à l'entrée. Et il y a un jeune africain qui est là au bout du banc et qui se dit « mais c'est pas possible, il y a la police partout ». Alors ma copine lui dit « vous avez un billet ?»« Non ». Alors on essaye de lui faire comprendre, on l'entraîne plutôt vers la sortie. On est dehors sur le parvis de la gare avec lui, sur les talons, et ma copine dit, il y a aussi cette jeune femme qui avait un billet. Elle veut aller à Paris. Bon, comme il y a plein de flics, on discute un peu, et je dis, si tu veux, j'ai une voiture, je peux les emmener en Antibes. Le jeune homme est mineur, il veut aller à Dijon, il a de la famille, et elle veut partir à Paris. Elle est majeure. On monte dans la voiture et on s'en va à la gare d'Antibes, où on arrive un peu avant l'horaire du train qui partait de Nice, pour lequel la jeune érythréenne avait un billet. On rentre dans le hall de la gare, je garde la voiture et je les accompagne. Et je rentre dans le hall, j'essaye de passer le billet de train à la borne. Ça marche pas beaucoup, je tourne d'un sens dans l'autre. Pendant ce temps-là, il y avait une femme agente de la SNCF avec un petit gilet rouge là, qui faisait l'aller-retour entre le quai et l'entrée de la gare. Une jeune femme blonde. Elle faisait l'aller-retour. Donc évidemment, on savait aussi qu'il pouvait y avoir des complicités entre la police et la SNCF. Donc j'ai regardé et j'ai très bien vu qu'elle allait les voir et qu'elle leur faisait un signe de la tête pour montrer qu'il y avait quelque chose dans le hall de la gare. Et les policiers sont arrivés tous les trois. Tranquillement, ils arrivent. Et il s'adresse à notre groupe. Évidemment, il n'y a que moi qui peux parler. Vous êtes ensemble, oui. Où allez-vous à Paris? D'où venez-vous? De Nice. Et ils repartent, ils s'éloignent tranquillement. 3 minutes après, ils reviennent. Vos papiers. Lui, le jeune homme, avait encore un billet de bus, Naples, Vintimille. Ça prouvait bien qu'il venait d'Italie. Ce qui clarifiait sa situation d'une certaine façon. Il y avait une chef policière qui vociférait « On a un passeur, on a un passeur !» Bon, on va pas se mettre à discuter avec la police. Donc, on est parti, moi, ils m'ont mis en voiture menottée, n'est-ce pas ? Dans la voiture, on est allé à Nice, au centre de rétention. On est tous allés au centre de rétention. Ils voulaient leur faire dire que je les avais fait payer. La police voulait absolument avoir la preuve que j'étais un passeur. Je ne sais pas à quoi j'aurais été condamné. De toute façon, il fallait que je sois coupable de quelque chose. À un moment, j'ai entendu pleurer. C'était le mineur. L'avocate m'a dit, c'était renseigné, que c'était le mineur qui pleurait et qui avait essayé de s'ouvrir les veines. Mais il a été renvoyé en Italie. Ben après, garde à vue, premier interrogatoire le matin, sans l'avocate, commise d'office, et donc l'après-midi, perquisition chez moi, ordonnée par le procureur. Et donc, ben, ils ont trouvé quelques papiers qui traînaient, et un téléphone, le téléphone que j'avais sur moi, bien sûr, il avait été confisqué. Ils en ont trouvé un qui traînait, confisqué également. Il y avait simplement qui traînait quelque chose sur les gardes à vue. Un papier sur les gardes à vue, je l'avais imprimé. Je m'étais dit, je lirai plus tard. Et puis, il y avait les adresses mail de pas mal de gens du réseau. Je m'étais dit, c'est intéressant de l'avoir. Si le jour où j'ai besoin de joindre quelqu'un, j'ai les adresses mail. Donc, ils ont trouvé ça. Et c'était le gros butin. L'après-midi, avec l'avocate commise d'office, on essaye de me faire dire que c'est l'association qui m'a mandaté pour les accompagner. Ce que je nie. Et qu'on a trouvé des papiers chez moi, comme quoi j'ai des activités d'aide aux étrangers, d'aide... Je ne sais pas. Et j'ai été libérée le lendemain midi, 14 juillet 2015.
Et après,
Convocation au tribunal, de grâce, le 18 décembre, je ne sais plus quoi, c'est là. J'ai gardé le papier parce que... Ça, c'est le jugement. Ah non, ça, c'est la fin. Convocation en justice, l'audience, qui s'en est grâce, le 18-12, à 13h. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement à l'égard de madame, déclare coupable qui lui sont reprochés pour les faits aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France commis le 13 juillet 2015 à Nice et Antibes. Condamne au paiement d'une amende de 1 500 € ferme, je crois. Oui, c'est ça. Mais j'avais mal compris. J'ai cru que c'était 1 500 € avec sursis. Je me suis dit, quand même, c'est pas mal. Et j'ai reçu un papier en mai. Vous nous devez 1 500 € de la condamnation de tribunal de Aix-en-Provence. Voilà. Et donc, je les paye. J'ai demandé, je les paye 400 € par mois. On m'a proposé de m'aider à payer. J'ai dit non, je me débrouille.
Qui vous a proposé ?
Tout le milieu associatif, tout le monde. Mais voilà, c'est comme un PV, je sais pas. Un PV qui n'a pas de sens, voilà. C'est honteux. J'ai en mémoire que mes parents ont accueilli des enfants de mineurs en grève dure à Alès au moment de l'annonce de la fermeture de la mine. Et il y avait un réseau d'interaction tel que mes parents ont été informés et ont accepté d'héberger ces deux garçons, 8 ans, 11 ans, et qui ont passé à peu près un an, qui ont été scolarisés à Menton. Et ils n'avaient pas de salaire, les parents avaient une grève très dure, longue, les parents n'avaient plus de salaire. Des fois, il y a un fonds d'aide, mais il y a multiples façons d'aider. Il y a le fonds d'aide de l'argent pour certaines familles, et il y avait cette demande d'hébergement. C'est quelque chose qui me semblait faire partie de la vie. Très peu de temps après, j'en ai hébergé encore, jusqu'à cette année. J'ai hébergé cette année, c'était une jeune Ivoirienne qu'une femme inspecteur de la SNCF avait contrôlé à 10h du soir à la frontière ou à Garavant, première gare en France, et qui m'appelait en me disant « Voilà, j'ai eu votre numéro de téléphone par une collègue à vous. Est-ce que vous l'hébergez si je la laisse continuer ?» Je dis « Oui, je l'héberge. Bon, elle va arriver à la gare de Nice à telle heure. » J'ai dit « D'accord, j'y serai. » Et donc, je suis arrivé à la gare de Nice. Il y avait un jeune niçois qui lui tenait compagnie pour pas qu'elle soit toute seule. Et la police était dehors. Et donc, ben voilà, je suis allé la chercher. On l'a traversée, j'ai préféré qu'on passe assez loin de la police. Et puis on est arrivé chez moi, elle est restée 24 heures à peu près. Elle avait un bébé de 6 mois. Et c'est pour ça que la contrôleuse de la SNCF disait « j'ai pas eu le cœur de les renvoyer à Vintimille ». C'était la première fois que ça m'arrivait d'être condamnée, mais comme j'ai dit au tribunal à Grasse, il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est que ça n'ait pas marché. Qu'eux, ils n'aient pas pu monter dans le train. Tout le reste, je ne regrette pas du tout. Et donc, on fait appel. Et là, ça a été confirmé. En appel. Il s'agit de dissuader, il s'agit de faire peur. Il n'y a que ça qui compte pour eux. Marquer un point. Mais ils sont, comme je leur ai dit à Grasse, mais il y a plein de gens qui le font. Je ne suis pas seule. À moi, ils n'ont pas réussi à faire peur. Et à des tas de gens, ils n'ont pas réussi à faire peur. Partout en France.
Your silhouette against the window by the bed. Red lips wrapped around the burning cigarette. I knew that you would be the best thing I'd regret, but under your charms, I'm over my head. You are the drug that I shouldn't be taking, but one that is hard to refuse. This is a game that I shouldn't partake in, 'cause it feels so good to lose. Girl, take me into your ocean, burn me up in your skies. Dance around in slow motion, shoot me down with your eyes. Tell me you really love me, even when it's a lie. Make me believe it until the morning light. Until the morning light. Until the morning light. Until the morning light. I taste the blood and feel your nails upon my back. Say stop, but then you wrap your arms around my neck. The way you shut me up and pushing me a kiss, when I'm trying to tell you I don't wanna do this.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et Deux délits de solidarité racontés par Émilie Chaudet et réalisés par Emmanuel Geoffroy. Merci à Laurent, à Claire, à René Daon, à Suzelle Priot, à Hubert Jourdan de l'association Habitat et Citoyenneté à Nice, ainsi qu'à Mélanie Gontier et Michel Rousseau de l'association Tous Migrants. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nul ne l'ignore.